commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
Sekset PL to ruch, który buduje przestrzeń dla otwartego dialogu na tematy związane z edukacją seksualną.
Rozmawiamy. Bonjour, des femmes qui défient le pouvoir aujourd'hui dans Accent d'Europe en Pologne. C'est un sujet tabou que la top modèle Ania Rubik s'est attaquée, l'éducation sexuelle. Cette mannequin de 35 ans est très connue dans le milieu de la mode. Elle est à l'origine de vidéos sur Internet et d'un livre dans lequel les adolescents polonais peuvent trouver réponse à toutes leurs questions sur la sexualité. Mais ce n'est pas si simple. Le gouvernement ultra-conservateur ne voit pas d'un très bon œil son initiative qui évoque tous les aspects du sexe, Thomas Giraudeau.
Sexe oral, orgasme, coming out, tous les aspects de la sexualité sont abordés. Un vrai choc dans une Pologne où il n'y a pas de cours là-dessus à l'école. C'est ce manque qui a poussé Ania Rubik à lancer Sexe PL.
Nous avons des cours qui s'appellent littéralement « Apprendre la vie familiale ». Et malheureusement, ils sont souvent enseignés par des prêtres ou des nonnes. Les adolescents n'apprennent rien de la contraception, des maladies sexuellement transmissibles. À la place, ils ont un manuel de 180 pages dans lequel le mot « sexe » est écrit seulement deux fois et avec un aspect très négatif. De plus, il y a beaucoup de fausses informations, comme par exemple que la masturbation est un signe d'immaturité, que vous devriez éviter cela. Les enfants sont élevés dans un esprit de culpabilité. La sexualité n'est pas quelque chose de naturel, de beau, c'est seulement un moyen de procréer.
La mannequin relaie les interrogations des ados, comme dans cet extrait d'une vidéo diffusée sur YouTube avec la sexologue Natalia Trebus.
Peut-on devenir accro à la masturbation ?
Oui, et surtout si c'est associé à la pornographie. On devient addict à certaines images. On a besoin d'être de plus en plus stimulé. La masturbation peut affecter notre vie de tous les jours. On ne travaille pas parce qu'on a envie de se faire plaisir et qu'on ne fait que penser à ça. Et quand la personne est dans une vraie relation, les images pornographiques lui manquent. Dans ce cas, ça peut devenir problématique.
Ania Rubik s'est donc lancée dans un combat de manuel scolaire avec 12 éducateurs, psychologues, gynécologues, sexologues. Elle a écrit un vrai livre d'éducation sexuelle à destination des adolescents, de leurs parents et des écoles. Plus de 150 000 exemplaires vendus en 7 mois.
On a envoyé plus de 1000 manuels à des professeurs qui nous l'ont demandé sur Internet. Malheureusement, beaucoup d'écoles n'acceptent pas l'ouvrage. La décision de le mettre à disposition dans les bibliothèques est dans les mains des directeurs ou des directrices. Je l'ai aussi envoyé au ministère de l'Éducation et je n'ai pas eu de réponse. Je savais que ce serait un sujet difficile.
Le sujet est carrément devenu politique. En meeting en vue du scrutin européen, le président du parti ultra-conservateur au pouvoir, Jarosław Kaczyński, a lancé la charge contre tout un ensemble d'initiatives qui attaqueraient les enfants et la famille traditionnelle polonaise. Ania Rubik.
Ce gouvernement est très conservateur, il est très proche de l'Église. Il est contre toute forme d'éducation sexuelle. Je ne comprends vraiment pas ce qu'ils veulent dire quand ils déclarent que nous détruisons les valeurs familiales traditionnelles. Tout ce qu'il y a dans mon livre et tout ce que je fais est basé sur la tolérance, l'acceptation, l'amour. Je ne pense pas menacer qui que ce soit.
Malgré ses attaques très politiques, Ania Rubik veut continuer de prêcher sa bonne parole. Dans quelques mois, elle espère prendre un bus et partir avec des éducateurs à la rencontre des adolescents partout en Pologne.
Thomas Giraudeau à Varsovie.
Ich bin Christina Hähnl, ich bin Ärztin und ich bin verurteilt worden, weil ich
En Allemagne, c'est pour le droit à l'avortement que se bat Christina Hähnl. Cette femme médecin de 62 ans a décidé de braver l'interdiction d'informer sur l'avortement et sa pratique sur son site internet. Une interdiction posée au paragraphe 219A du code pénal allemand. C'est une loi adoptée en 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, Christina Hähnl est devenue une icône du combat des femmes allemandes pour le droit d'avorter. Depuis Berlin, Julien Méchaussy.
La politique est une affaire personnelle, journal d'un médecin de l'avortement. C'est le titre du livre de Christina Hähnl avec lequel elle est actuellement en tournée dans toute l'Allemagne. Si le médecin n'apprécie guère ce surnom de médecin de l'avortement qui lui a été donné par la presse, elle sait s'en accommoder, consciente de sa puissance médiatique, car son refus d'accepter une législation d'un autre temps a permis de remettre au centre des discussions l'avortement et avec lui les droits des femmes. Un sujet resté tabou dans une société allemande encore très imprégnée des valeurs chrétiennes. S'il ne remet pas en cause le droit à l'avortement, le paragraphe 219A empêche cependant les médecins comme Christina Hähnl d'informer sur leur pratique de l'IVG. Son combat juridique a commencé après un jugement rendue l'an dernier. Elle a été condamnée à 6000 euros d'amende pour avoir simplement écrit sur son site internet qu'elle réalisait des avortements. Après avoir fait appel, Christina Hennel a annoncé être prête à aller jusqu'à la Cour fédérale constitutionnelle. Et face à la polémique, la coalition au pouvoir entre conservateurs et sociodémocrates a tenté de réagir avec une modification de la loi. Les médecins peuvent désormais certes informer sur le fait qu'ils pratiquent l'avortement, mais pas sur la manière de procéder. Un compromis qui ne suffit pas aux yeux de Christina Hennel. Comme elle l'a écrit dans son livre, faire perdurer cette loi signifie la réduction des médecins au silence, tandis que les opposants à l'avortement continuent, eux, d'avoir les mains libres depuis des décennies.
Vállalja a vegzálást és nem fél, állítja Nagy Blanka, az a diáklány, aki egy kecskeméti tüntetésen bírálta éles szavakkal a kormányt. Felszólalása óta lejárató kampány indult ellene. A stúdióban Nagy Blanka.
En Hongrie, c'est une lycéenne, Blanka Nagy, qui se lève face au Premier ministre Viktor Orban et son régime illibéral. Elle vit dans le sud de la Hongrie et elle est devenue, ces derniers mois, le symbole d'une jeunesse qui résiste à l'autoritarisme. Portrait signé de notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère.
Petite et ronde, avec de beaux cheveux roux, Blanka Nagy est devenue célèbre lors de son discours du 20 décembre dernier. La Hongrie est alors secouée par une vague de manifestations contre la loi travail votée par le gouvernement Orban. Lors d'un rassemblement en province, Blanka, qui appartient à un collectif lycéen, prononce des paroles incendiaires contre le parti du Premier ministre Viktor Orban. Dans son discours, Blanka qualifie le parti de Viktor Orban d'épidémie contagieuse, une épidémie pire que la peste et l'Ebola, et elle invite les députés de la majorité à aller se faire foutre.
J'ai prononcé un discours dur contre le gouvernement parce qu'on ne peut pas vivre une vie normale dans ce pays. Le gouvernement limite la liberté d'expression, il empêche les étudiants d'étudier, il nous empêche de vivre.
Après son discours, la lycéenne est traînée dans la boue par les médias pro-gouvernementaux. On la traite de crétine, de cancre, de petite prolétaire stupide et les trolls se déchaînent sur les réseaux sociaux. Face à ces attaques, Blanka garde un calme olympien.
Je ne peux pas prendre ces attaques au sérieux. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du mal. Ils lancent des horreurs, mais ils ne veulent pas voir l'essentiel, c'est-à-dire mes idées. Et puis sur les réseaux sociaux, beaucoup d'attaques viennent de comptes bizarres, d'individus qui n'ont pas d'amis, pas de photos. Ce sont des profils vides. De faux profils.
Alors Florence, avec l'aide d'un avocat, Blanka Nagy a porté plainte contre les médias qui l'ont diffamée et elle a gagné. Elle revient avec vous sur cette campagne de haine dont elle a été la cible.
C'est une réaction tout à fait typique du gouvernement Orban. Il part en guerre contre quelqu'un, il lance une campagne de haine, il propage souvent de fausses infos pour traîner cette personne dans la boue et essayer de la détruire.
On est avec toi, Blanka.
Depuis, Blanka prend régulièrement la parole dans les manifestations anti-gouvernementales. Devant la foule qui scande « Blanka, on est avec toi ». Quand on lui demande quel effet cela fait d'être devenu un symbole, un porte-étendard de la résistance anti-Orban, elle reste modeste.
Je ne me vois pas du tout comme un symbole. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Simplement, je suis mécontente de ce qui se passe. La seule différence, peut-être, c'est que j'ai envie que ça change et je me bouge. Et je soutiens tous ceux qui veulent agir pour changer les choses.
Kedves társaim! Az Orbán kormány egy daganatos sejt, amely fel akarja falni a többi vele nem egyező sejtet.
Blanka a été membre du collectif Le Parlement des lycéens. C'est là qu'elle a appris à rédiger des discours et à parler en public. Mais un tel exemple est rare au sein d'une jeunesse hongroise plutôt amorphe.
L'un des problèmes, c'est que les jeunes n'ont pas d'opinion. À l'école, d'abord, il est interdit de parler de politique. Ensuite, on n'enseigne même pas des notions élémentaires d'instruction civique. Par exemple, à quoi sert une élection, pour quelles raisons voter pour un parti, comment voter. Les jeunes ne peuvent pas former leur opinion. Alors, ils finissent par voter comme leurs parents. Mais ma génération est divisée. Il y a une autre partie de la jeunesse qui a des idées, mais qui n'ose pas les exprimer par peur de représailles.
Köszönöm a meghívást.
Blanca est sur le point de passer son bac. Où se voit-elle dans 10 ans? Pas dans la politique, mais plutôt sur une scène artistique. Elle prépare en effet le concours d'entrée à l'école d'art dramatique.
Dans 10 ans, j'espère que j'aurai fini l'université. Dans mes rêves, je me vois comme une metteuse en scène reconnue dans un bon théâtre. C'est mon rêve et je fais tout pour le réaliser.
Le 26 mai, jour des élections européennes en Hongrie, Blanca votera pour la première fois. Elle ne sait pas encore pour quelle formation, mais ce sera sûrement pour un parti d'opposition.
Giannaia Napolita, c'ha ragione, è una di quelle piccole cose che purtroppo rimangono sempre indietro, però c'ha ragione, bisogna farlo.
En Italie, la première femme à accéder à la mairie d'Ancône a remporté le titre de meilleure maire du monde. Valeria Mancinelli est une élue très impliquée dans la vie de son parti, le PD, le Parti démocrate. Elle a été distinguée surtout pour sa gestion de la ville sur la côte adriatique, une gestion qui lui a permis de sortir de la crise économique. Les précisions de Cécile Debarge.
Valeria Mancinelli n'est ni une femme de réseaux sociaux ni de médias. En réalité, c'est un peu par hasard qu'elle a découvert qu'elle était sur le point d'être élue meilleure maire du monde. Et c'est un appel d'un journaliste du quotidien local Corriere Adriatico qui le lui apprend. Parmi les 26 finalistes du prix, il y avait Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a finalement reçu la mention spéciale du jury. Mais c'est bel et bien elle, Valeria Mancinelli, qui est déclarée grande gagnante du World Mayor Prize. À 64 ans, elle est maire depuis 2013 à Ancône, ville de 100 000 habitants située dans les Marches, sur la côte adriatique. Réélue en 2018 pour un deuxième mandat, cette démocrate est à la tête d'une coalition de centre-gauche qui a eu à cœur de donner un second souffle à cette ville, mise à mal par la crise de 2008. J'ai commencé par les trous sur les routes et le nettoyage des parcs, et puis ensuite j'ai imaginé la ville du futur. Voilà comment Valeria Mancinelli résume son action à la tête de la ville depuis 6 ans. En réalité, ses efforts se sont concentrés sur le port de la ville, dont les difficultés économiques avaient des conséquences sur toutes les entreprises de la région. En travaillant à sa revitalisation, elle a permis de rallumer le plus puissant moteur économique de la ville et de la rendre plus attractive pour les habitants, certes, mais aussi pour les touristes. La maire d'Ancône a aussi été l'une de celles à s'opposer fortement au décret sécurité du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui prévoit de nombreuses mesures anti-migrants. Des idéaux qu'elle a hérités, raconte-t-elle, d'une famille fortement impliquée dans la résistance contre le fascisme dans les années 30.
Un continent, 800 millions d'habitants, plus de 200 langues et dialectes. Bienvenue en Europe.
Avis aux accros du petit écran, la chaîne de télévision Arte diffuse pendant 24 heures non-stop le 4 mai une série qui prend le pouls des jeunes européens de samedi 6h du matin au lendemain dimanche 6h. 24 heures du quotidien, des rêves, des attentes et des peurs de ces jeunes, un véritable kaléidoscope de 60 garçons et filles de 15 à 30 ans, originaires de 26 pays, le tout filmé par 45 équipes de tournage. Ça s'appelle en bon globiche 24 heures Europe de Next Generation. Deux cinéastes, Britt Baier et Vassili Silovitch, sont à l'origine de ce projet marathon. Vassili Silovitch est l'invité d'Accent d'Europe. Il est au micro de Catherine Roland pour expliquer d'abord comment les sujets abordés ont été choisis.
On s'était donné des grandes thématiques, en fait. Ce que les sociologues appellent parfois des méga-trends, qui sont donc des sujets qui nous concernent tous en tant que société, qui vont, pendant une cinquantaine d'années, déterminer finalement la manière de vivre de nous tous. Et là-dedans, on trouve donc immanquablement, bien sûr, le chômage des jeunes, le changement technologique, le passage au numérique, des questions de genre et de sexualité, la mobilité.
Oui, il y a aussi le problème du logement. On le voit avec le jeune grec Yorgos, notamment, oui. Puisque le pays a traversé une crise économique terrible.
Alors, notre personnage, nous, Yorgos, est donc un jeune homme qui se rêve champion en kickboxing, qui survit avec des petits jobs. Donc, ce n'est pas non plus passivement un chômeur. Il se bat aussi avec la réalité du pays.
Et à travers tous ces personnages et tous ces jeunes, est-ce que vous avez pu définir ce qu'est un jeune Européen aujourd'hui et ce qu'il veut de l'avenir, du futur, du continent ? C'est difficile, semble-t-il.
C'est très difficile. Nous, on laisse finalement libre cours à livrer ces petites destinées du quotidien. C'est une voyage de découverte, en fait, qu'on propose.
En même temps, il y a cette jeune Italienne, je crois, Carolina, qui dit « On a grandi avec l'idée que tout était possible ». Alors elle, évidemment, c'est une jeune Européenne intégrée dans l'Union Européenne.
Elle est aussi une jeune européenne, et ils sont assez nombreux, un peu privilégiée de par une famille de petits industriels, mais quand même une famille qui n'a pas vraiment de soucis économiques, financiers à se faire. Donc elle représente, elle, cette jeunesse qui a fait plutôt de bonnes études, qui voyage, qui même se déplace pour aller faire les premières expériences professionnelles. Dans son cas, elle, c'est Londres, donc c'est là que nous l'avons trouvée. Et par ailleurs, entre-temps, elle est rentrée, elle a pris sa place dans l'entreprise familiale. Donc, c'est un certain type de ces gens et jeunes qui peuvent énormément voyager et s'enrichir à travers ce mouvement perpétuel. À l'inverse, nous avons aussi touché à des jeunes qui n'ont pas du tout ces privilèges.
Oui, et le jeune bulgare, j'y pense, qui est dans un tout petit village de 26 habitants, où il est le seul jeune d'ailleurs.
Lui, typiquement, c'est voilà un jeune homme qui aura beaucoup du mal à sortir de son village, disons plutôt de cette manière-là. Son rêve à lui, c'est de devenir chauffeur de taxi.
Ou DJ dans une boîte à Londres, il le dit, il a des rêves lui aussi.
Oui, il a des rêves et c'est peut-être ça qui est plaisant à découvrir derrière cette jeunesse européenne. Ce sont quand même des privilégiés tous à un certain niveau. On se rend compte que l'Europe est quand même un endroit où on peut encore rêver. Et ce n'est pas rien, on l'oublie trop souvent.
En même temps, il y a quand même des peurs et des solidarités qui s'expriment. On a d'un côté des jeunes qui s'engagent dans la solidarité, comme Chloé sur le Sea-Watch, qui va repêcher des migrants. Et puis de l'autre, je crois que c'est Marie-Kahn qui milite à l'AFD, donc un parti fortement anti-musulman et qui est dans le rejet et dans la peur.
Il y a deux jeunesses qui s'opposent, qui se complètent. Il y a cette jeune Allemande qui est d'origine pakistanaise, son père est pakistanais, qui elle-même, on peut se poser des questions sur comment elle est dans sa peau avec sa propre identité et quels sont ses troubles à elle. Mais elle a choisi pour l'instant de s'engager de manière forte et très politique du côté de l'extrême droite allemande. On a aussi un jeune Italien, Almerigo, qui est à Trieste et qui fait des rondes le soir pour, dans son esprit, éviter que des étrangers se comportent mal envers la femme italienne blanche et telle que il s'imagine son idéal. Mais bien sûr, nous sommes face à une jeunesse qui est quand même profondément troublée par toutes sortes de transformations et toutes sortes d'héritages avec lequel elle doit partir vers un avenir qui paraît pas toujours certain.
Oui, puis il y a la question du travail. Là aussi, les jeunes ne sont pas égaux. Il y a d'un côté Christiane qui a monté sa start-up à Berlin, de l'autre côté Johanna au Portugal, qui elle a du mal à joindre les deux bouts.
Oui, Johanna a fait des études, pourtant universitaires, mais depuis la fin de ses études, elle n'arrive à vivre et à survivre qu'en conduisant un tuk-tuk, c'est un petit tricycle où les touristes s'installent. Et alors, elle est plutôt joyeuse dans sa manière d'affronter ce quotidien, mais elle se rend bien compte que ce n'est pas le rêve qu'elle avait en tête. L'Europe, malheureusement, ne ouvre pas ses portes à tous les rêves et en tous les cas pas simultanément pour tout le monde.
Qu'est-ce que vous pensez au final que le téléspectateur va ressentir au bout de ces 24 heures plongées dans le quotidien de toute cette jeunesse ?
J'espère qu'il va se laisser guider en fait à travers cette jeunesse qui peut-être quand même dévoile que derrière cette diversité extrême, quelque chose fait tenir cet ensemble. En tous les cas, moi, j'y crois beaucoup. C'est un voyage où on n'est jamais complètement dépaysé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui fait qu'on se reconnaît comme étant chez soi un peu partout. Que ce soit à l'extrême est, à l'Oural, à la limite du continent avec l'Asie, et que ce soit en Islande, dans l'extrême nord de la Norvège, avec les Samis. J'ai l'impression quand même que je me sens chez moi. Je suis très curieux de savoir ce que les gens vont ressentir.
24 heures Europe, The Next Generation de Britt Baier et de Vassili Silovitch. C'est le 4 mai prochain sur Arte, la chaîne de télé franco-allemande. Et le 4 mai, c'est aussi la fête de l'Europe qui commence à Paris pendant tout le week-end avec des concerts, des spectacles et des débats sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Accent d'Europe à la réalisation, Jérémy Besset. Vous retrouvez le podcast d'Accent d'Europe sur rfi.fr et nous sommes aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr ici demain à la même heure.